Je disais que nous allons réfléchir, nous allons méditer autour de trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus importante de ces choses, c'est l'amour. Et alors, si vous lisez ce passage, je vais vous proposer quoi? Les différentes parties de ce passage. Du verset 1er au verset 3, nous voyons que l'apôtre parle de l'importance de l'amour. L'importance de l'amour qui est au-delà, oui, au-delà de ce que nous sollicitons beaucoup plus dans nos vies. Parce que je sais bien que nous sommes des fois abasourdis quand nous sommes en présence d'un don et des dons qui nous échappent parfois. C'est les dons des prophéties peut-être. Parce qu'une fois nous étions dans une étude biblique, et c'est moi qui conduisais l'étude biblique, j'avais posé juste la question de savoir s'il s'agit de tous ces dons qui sont repris par Paul, lequel vous voudriez assez que ce soit votre don. Et la plupart des gens ont parlé des prophéties. Parce que des fois, quelque part, vous vous laissez être intimidé par les gens qui peuvent être au devant de vous et commencer à raconter votre vie. Vous vous dites, ah, oh, si je pouvais être aussi de cela. Alors, le verset 4 jusqu'au verset 7, il nous parle des actions de l'amour. Et là, on nous dit quoi? L'amour est patient. C'est que l'amour doit produire des actions. La patience. Quoi encore? Le service. Quoi encore? Ne pas se vanter, ne pas s'enfler d'orgueil. Ce sont les actions concrètes à qui découlent de l'amour. Et alors, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, il parle des actions de l'amour. Les actions de l'amour. Ce qui est vrai à remarquer, c'est que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de manifestations de l'esprit. Il y avait différents dons qui montraient et qui manifestaient la présence de l'Esprit dans cette église. Les dons de parler en langue, parce que ça, ça devenait comme magique, et que dans cette église, ceux qui parlaient en langue étaient considérés comme étant des êtres plus spirituels que les autres. Il y avait des dons de prophétie, il y avait des dons même de la connaissance de tous les mystères. Il y avait les dons de la réflexion théologique, parce que je suis dans cela. Il y avait plusieurs dons, en fait. Il y en avait plusieurs. Mais alors, l'apôtre Paul veut recadrer les choses pour que les Corinthiens ne tombent pas dans un enthousiasme spirituel. Faire prévaloir les dons de l'esprit, et pourtant ce sont des dons de l'esprit, les faire prévaloir comme si c'est l'homme et à l'intérieur de l'homme à qui il est capable de produire ces dons-là. Et alors là, Paul veut attirer l'attention de l'Église, veut attirer l'attention de tous les membres de l'Église. Et dans une Église, on peut voir se manifester toutes sortes de dons de l'Esprit. Mais alors, Paul se dit ceci, on peut voir tous ces dons-là se manifester. Même ce que vous pouvez considérer comme sublime, que vous pouvez considérer comme étant le reflet de la personne à qui est trop spirituelle. Mais il va dire, s'il n'y a pas d'amour entre les chrétiens, les dons, même les plus spectaculaires, même les dons que nous pouvons considérer comme des dons qui sont magiques, ne valent pas du tout, ne valent pas grand-chose. Et avec toute la diversité qui pourrait exister dans une église, mais ce qui compte, et sur lequel le Seigneur veut mettre un accent particulier, c'est notre amour pour le Seigneur et notre amour pour les uns et les autres. Et c'est notre amour pour le Seigneur et notre amour pour les uns et pour les autres qui va produire l'unité. Parce que si on se met seulement à voir les manifestations de l'Esprit, des fois, on peut se sentir tout petit devant quelqu'un qui parle en langue. On peut se sentir tout petit devant quelqu'un qui fait des prophéties. Et vous savez bien combien il y a de ralliements de certaines personnes auprès des gens à qui se considèrent comme des prophètes. Vous pouvez être là ce matin, mais l'après-midi, on apprendra que vous êtes allé consulter tel prophète qui est quelque part dans la vie. Parce que qu'on habite en bonne nature à ça, n'est-ce pas, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ah, prophétie. Ah. Oui, c'est tout le monde qui veut savoir ce que sera son lendemain. On est là inquiet, on n'est pas dans la quiétude, parce qu'on ne sait pas ce qu'on sera dans les secondes qui vont suivre. Il suffit seulement que quelqu'un se plante là, et même un soldat ici, après avoir puisé toute la force dans les Saintes Écritures, et que quelqu'un se plante à juste à la sortie, et commence à lire votre histoire à travers vos mains, et vous allez vous arrêter. Mais l'apôtre Paul veut attirer notre attention sur cela, que l'amour pour le Seigneur et l'amour pour les uns et pour les autres, c'est ça ce qui doit produire à nous l'unité. Et je vais le dire à terme simple, c'est que l'amour c'est comme de la colle, ça colle, ça tient. L'amour c'est la colle qui nous tient tous ensemble, et c'est ce qui permet à ce que la vie soit vivable. L'amour se montre, ne pas par une parole, ou bien par des paroles, mais par ses actions. Et les actions, ce sont les choses que nous faisons. Et les actions de l'amour, ou bien l'amour est là pour servir, pour bénir et pour édifier les autres. Et c'est là qu'à partir du verset 4, tout nous est bien reflété là-bas. Et alors je vais revenir sur notre texte pour dire que notre texte met en tension à ce qui est temporaire, ou bien ce qui est imparfait et ce qui demeure, ce qui a un caractère provisoire et ce qui a un caractère éternel. C'est cette tension-là que nous devons observer. Et l'apôtre Paul va nous dire que même les dons que vous considérez comme spectaculaires, ont toujours un caractère qui soit éphémère. Caractère qui est des choses imparfaites. Parce qu'il est dit bien, l'amour ne succombe jamais. Au verset 8. Mais que ce soit les prophéties, elles seront abolies. C'est qu'il y aura la fin pour tout ça. Que ce soit les langues, elles cesseront. Oui, les connaissances théologiques, ça sera aboli. Parce que le tout, c'est toujours partiel. Et dans la vie, il y a beaucoup de choses qui passent aussi. On aime trop parler de la mode. Oh, tu es à la mode. C'est que tu es à la page. Et vous verrez les chemisiers que portent nos mamans, c'est toujours les chemisiers des Libaya. Qui sont à la mode. Merci, les mamans. Vous êtes toujours à la mode. Vous êtes toujours à la page. Et d'ailleurs, ça nous montre combien que la mode passe. Et d'ailleurs, ce que vous appelez la mode, c'est ce qui est dépassé. Malheureusement, ce qui est à la mode, c'est ce qui est dépassé. Parce que je me souviens quand on grandissait, les filles ne voulaient pas être habillées en robe. Mais aujourd'hui, vous vous ralliez toutes. Et maman, et fille, et tata. Toutes, c'est la robe. Demain, ça sera le pantalon. Et ça sera autre chose. Et alors, comme la mode passe, c'est que nous n'avons pas de raison de nous investir dedans. Par contre, là où nous devons nous investir, c'est dans ce qui est éternel. C'est dans ce qui demeure. Et beaucoup de choses passent. Même ce qui est spectaculaire, ça va passer. Mais il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et comme je l'ai indiqué, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Et il met à garde cette église de Corinthe à que les chrétiens qui sont enthousiastes de cette communauté et qui étaient tentés d'être fiers par rapport à ce que l'Esprit leur a donné de vivre comme expérience. Et pourtant, ils devaient reconnaître que ce qu'ils vivent comme expérience à travers les dons qui leur avaient été dispensés. Mais ils doivent savoir qu'il s'agit des dons de l'Esprit. Et c'est pour cela qu'il va commencer par ceci. Quand bien même je serai capable de parler la langue des anges. Bon, la langue des hommes, ça peut ne pas être très compliqué. Bon, tu vas à Mwenga, tu vas parler le Guirec. Bon, tu vas au Bandundu, tu vas parler le Monokutuba.
Gradué,
tu vas à Kinshasa, tu vas parler les Lingala. Et même nous, on commence aussi à parler les Lingala dans tout mon chant. Et ça, je me pose la question, choriste, est-ce que vous comprenez ce que vous chantez en Lingala? Est-ce que vous comprenez ce texte-là? C'est la langue des hommes, c'est que vous comprenez ça. Et donc là, ça ne peut pas épater. Mais alors, la langue des anges, je ne sais pas à quoi ça ressemble, franchement. Est-ce que c'est une langue qui se parle entre les anges? Mais Paul voulait juste nous dire que ça peut être extraordinaire. Ça peut aller même jusqu'au ciel, la langue que tu parles. Quand bien même, il me sera arrivé de parler au nom de Dieu et d'élaborer une théologie savante. Parce que nous, en théologie, on aime bien la théologie savante. Quand bien même, j'aurais pu faire des exploits grâce à ma foi, transporter les montagnes. Et quand bien même, je serais prêt à mourir. Il y a des gens qui savent s'immoler, surtout dans les pays musulmans, il y a des gens exacerbés par la situation, ils prennent un pneu ou bien ils achètent du carburant, ils se mettent dessus et hop, un coup une flamme et ils commencent à s'immoler. Même si on peut arriver à ce niveau-là, même si je serais prêt à mourir pour mes idées, là je parle de ceux qui sont intéressés par la politique, mais si je n'ai pas l'amour, si je ne suis pas accroché aux valeurs qui demeurent, et les valeurs qui demeurent, c'est la foi, l'espérance et l'amour, la parole de Dieu nous dit, je ne suis rien. Et dans la vie, être rien, c'est avoir une pauvre image de soi-même. Et ça, c'est grave. Quand on se considère comme n'étant pas quelqu'un ou quelqu'une, si ça peut se dire ainsi, quand on se sent qu'on n'est rien, qu'on est bon à rien, il n'y a pas pire que ça. On garde dans sa tête des images tronquées de soi-même. Mais alors la parole de Dieu nous dit qu'il y a des valeurs à qui demeurent et qu'il faut toute la grandeur de l'être humain. Et ces valeurs demeurent et font la grandeur de l'être humain à partir du moment où l'être humain s'y consacre. S'y consacre. Et donc quand tu te consacres à ces trois choses-là, et c'est ça ce qui peut te donner encore la joie de continuer à vivre. Et alors, la première de ces choses-là, ça s'appelle la foi. La foi. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que malgré les transformations de l'existence, malgré les menaces du présent, l'inconnu de l'avenir, qu'est-ce qui permet à ce que l'apôtre Paul puisse dire que ça, la foi, c'est une réalité qui demeure? Mais quand nous voyons les choses autour de nous, est-ce que nous vivons au quotidien? Alors nous nous posons la question, est-ce qu'il y a encore moyen de continuer à faire confiance en Dieu? Et la parole est Dieu de nous dire, ces trois choses-là demeurent. Mais alors, il y a deux autres à qui peuvent ne pas demeurer jusqu'au bout, mais il n'y a qu'une seule valeur qui va jusque dans l'éternité. En fait, si je vous posais la question, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que vous allez me dire? La foi, c'est quoi? C'est la croyance, n'est-ce pas? Tu crois. Mais il y a la foi et la foi. Parce que tu peux croire à n'importe quoi. Et tu peux croire à la parole de n'importe quel prophète. Il te dit, oui, comment tu as continué à réduire ça, ça n'a pas de pour vous avoir. Et toi, tu prends la bouteille, vous connaissez la marque, je ne veux pas faire la pub. Et tu mets ça sur ton poste récepteur, et tu crois, et tu ouvres la bouteille. Et tu prends de cet eau-là, tu dis, hé, eh, il y a marqué, il dit, c'est une foi. Et nous, on l'appelle la foi dans la foi. Parce que c'est une foi qui ne sauve pas. Mais la foi dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit en Romains, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de qui? De la parole du Christ. Alléluia. C'est la parole du Christ qui doit produire la foi. Certes, nous écoutons des paroles. Les jeunes filles attendent juste une parole de la part d'un garçon en disant oui, depuis un certain temps, je t'observe. Et je comprends qu'avec toi, je vais construire ma vie. Et c'est ça ce qui va mettre la fille sur le chemin de quoi? De la foi. Tu dis que oui, il a dit ce que est. Ça peut être possible. Mais écoutez, n'est-ce pas, mes papas? Mes papas, c'est pas là que nous avons commencé. Hein? C'est pas une parole. Et une parole qui met l'autre sur le chemin de la foi et dit c'est ça la parole. Pas n'importe quelle parole. Une parole véridique. Une parole qui est vraie. Yana, puis chaque fois on a semé ma parole, pour battre ma ville, on a jeté un gaz. Eh, n'a pas de, non, occasion. C'est que nous devons être vraiment véridiques dans la parole à qui nous voulons dire. Et la parole à qui nous est adressée, c'est la parole de Christ qui est lui-même la parole faite chair. Alléluia. Et c'est elle qui va susciter la foi en nous. C'est elle, si nous plaçons notre confiance à cette parole-là, voilà ce qui nous donne la foi et la foi qui sauve. Et cette foi va demeurer, ça demeurera, parce qu'elle est fondée sur la parole du Christ. Et en dépit de toutes les circonstances qui peuvent arriver, en dépit de... Je ne sais pas comment le définir, à dépit de tout ce qui peut t'arriver. Mais une fois que tu as fondé ta foi dans cette parole de Christ, tu ne seras pas ébranlé. Tu ne seras pas ébranlé. Parce que la parole du Christ, elle est vraie. Mais alors la parole de Dieu nous dit que un jour ça disparaîtra. Mais il arrive une fois où la foi disparaît quand nous sommes exposés à des difficultés, à des circonstances, on commence à se poser la question, madame, est-ce que Mungu kumaibi? À quoi c'est bien la toki à facile? La Bible va nous t'apporter, on va dire, on va te dire seulement que c'est le diable qui t'apporte ça. Non, on a sa vie que c'est bon. Je diable est plus fort que Dieu, et donc tu mets la foi dans cette parole-là. Non. Nous devons continuer à confesser la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Cette victoire de cette parole qui nous a été donnée. Et nous vivons que de cette parole. Nous vivons que de cette parole. Et que cette parole qui doit nous conduire dans notre existence. Parce qu'elle produit en nous la foi. Mais alors, Paul dit, même la foi c'est une réalité qui disparaîtra. Ça disparaîtra. Je vais vous dire quand est-ce que ça disparaîtra. Mais retenons d'abord que la foi, c'est cette parole qui agit en moi et dans ma vie. Et la foi trouve sa permanence. La foi trouve sa permanence, sa durabilité qui est dans les temps, trouve sa permanence dans Dieu lui-même, qu'il a fait naître en toi et en moi, et qui continue à la nourrir par la parole de Dieu. Et c'est fort de cela que ça doit toujours demeurer. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas faire face à ce que nous rencontrons dans notre vie, sans que nous puissions enraciner notre confiance dans les dieux qui nous a appelés et qui a fait naître la foi en nous, et qui continue à la nourrir par la parole de Dieu. La deuxième chose, la deuxième réalité, nous l'appelons comment? L'espérance. l'espérance. En fait, peut-être je pourrais l'expliquer un tout petit peu autrement. Peut-être c'est là que vous serez en mesure de comprendre. Disons l'espoir. Mais espoir, c'est encore un mot qui est très faible en français, à vous dire l'espérance. Parce que dans notre langage courant, nous disons toujours qui vit d'espoir. Oui, oui. Et c'est vrai. Et c'est vrai ou c'est faux? Bon, c'est à chacun de prendre sa part. Oui. Mais l'espérance, c'est de tout autre ordre. C'est vrai que dans notre histoire, l'histoire de l'humanité, nous plaçons notre espoir dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous plaçons notre espoir dans la technique et dans la technologie. J'avais vécu une expérience en Allemagne, et dans cette expérience, ce n'était pas du tout joli, joli. Les Allemands placent leur confiance, quand ils sont malades, ils placent leur confiance dans leur médecin. Ils placent leur confiance dans tout ce que la technique et la technologie a déjà inventé. Mais alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'en vivant avec les autres, tellement que la mort nous rattrape, même quand on place la confiance dans la technique, la technologie et dans tous les appareils possibles que le médecin a utilisé, mais la mort nous rattrape. La maladie, elle est là, et la mort nous rattrape. Et j'ai constaté qu'en Allemagne, on veut décaler au maximum la borne de l'existence. Et c'est pour cela que j'avais observé une expérience. Alors qu'on était ensemble avec un monsieur, dont la femme était très malade parce qu'elle souffrait de cancer. Et le cancer a quelque chose qui était à sa phase finale. Et enfin, on l'avait appelé que son épouse vient de rendre l'âme. Et il est allé au boulot. Et il n'a pas voulu dire à personne quoi que ce soit. Et son quotidien, c'était normal. Mais c'est maintenant à la fin du boulot qu'il a commencé à dire, à chuchoter à l'oreille, « Vous savez, ma femme est décédée. » Mais pour lui, la vie continue normalement. Et je vais poser la question, comment que cela était-il possible? Mais c'est parce que on place la confiance dans la technique et la technologie. Et alors qu'on finit par être rattrapé par la mort, par la maladie. Mais alors, quand la Bible nous parle de l'espérance, elle veut nous montrer combien que notre espérance doit être fondée sur à ce que Dieu a accompli dans le Christ. Ce que Christ est mort, Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est que notre vie doit être vécue autrement parce que il y a un boulevard qui est tracé devant nous, d'autant plus que nous ne devons pas être assujettis par les circonstances qui nous accablent déjà à outre mesure. L'espérance qui vient de Dieu, l'espérance qui trouve sa solidité en Dieu lui-même, c'est dans cette espérance-là que nous devons demeurer. Et ça doit nous forger et forger notre caractère que, au-delà des choses qui peuvent nous accabler, mais il y a cette espérance qui nous permet de penser notre vie autrement. À que notre vie n'est pas bouchée, mais il y a toujours la possibilité pour Dieu de frayer un chemin quand bien même nous ne le voyons pas encore. C'est ça l'espérance qui est différente de l'espoir. L'espoir, c'est encore quelque chose d'assez simple parce qu'on espère toujours au mieux. Mais dans l'espérance, Vous comptez sur la puissance des dieux, la présence des dieux et la solidité de la parole des dieux qui va frayer chemin comme le chante Children's Singers.
Oui, le Seigneur est capable de frayer un chemin en dépit de
toutes les circonstances par lesquelles nous passons. L'espérance qui est à nous, c'est cette espérance, cette espérance qui découle de la foi parce que nous fondons notre foi sur un Dieu qui est capable de transformer les choses dans notre histoire personnelle, de transformer les choses dans notre histoire en tant que nation, en tant que société. Le troisième concept, c'est l'amour, parce que c'est l'amour qui est la réalité à qui ne disparaîtra jamais. L'amour. Qu'est-ce que je peux dire? Les jeunes, vous avez votre QAM. Et votre QAM va toujours réfléchir dans le sens de se dire comment je peux avoir une âme sœur. Et comment je peux avoir aussi ma pointure parmi tant d'autres. Et l'amour, des fois, on le décline autrement. On le décline comme ce sentiment, cet élan spontané. Oui, cet élan spontané qui nous habite. Cette passion, tu as une passion pour l'autre. Et tu dis, oui, avec elle, je vais construire le reste de mon existence. Mais l'amour dont il est question ici, il s'agit de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Cet amour que les Grecs appellent l'amour agapique ou agapé, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour, c'est cet amour qui nous est exprimé dans ce verset de Jean chapitre 3, verset 16 que nous connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Voilà l'amour. Et l'amour qui ne périra jamais, c'est l'amour qui nous entraîne jusque dans la vie éternelle. Et l'apôtre Jean, vous savez bien, que ce soit dans l'évangile, que ce soit dans les épîtres, il ne cesse de revenir sur l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimer les uns et les autres, c'est enraciner notre amour, dans le caractère de l'amour de Dieu. L'amour, des fois on ne sait pas comment on peut l'exprimer, mais l'amour est là pour rendre service. Parce que c'est au nom de l'amour que Dieu s'est sacrifié en mourant sur la croix. Un Dieu qui est trois fois saint. Et je dis toujours à mes étudiants, est-ce que vous réalisez, contemplez un peu ce que cela veut signifier pour vous. Un Dieu qui est trois fois saint et qui pouvait rester dans son ciel, mais au nom de l'amour, il est venu me rencontrer, il est venu te rencontrer. Et c'est cet amour-là qu'il veut, ce que ça soit manifeste dans notre existence. L'amour, c'est ça ce qui doit fonder la qualité de la relation à que nous devons manifester les uns avec les autres. Et un jour, je parlais de ça quelque part. Il y a quelqu'un dans le groupe qui m'a posé la question. Mais Kamabou, écoute, dis-moi, l'amour a quelle couleur? Et si je vous posais la même question, pour que j'ai la réponse à lui donner, il a quelle couleur? Les jeunes, vous qui conjuguez ça, et les papas, vous qui conjuguez ça, ça a quelle couleur? Vous pouvez citer toutes les couleurs du monde, mais vous n'aurez pas la couleur correspondante. Mais ce que je vais vous présenter comme couleur, nous les trouvons dans le livre de 1 Samuel au chapitre 20. Vous allez lire ça à la maison. Il s'agit de l'histoire de qui? De Jonathan, le fils à Samuel, à Saül, et de qui? Et de David. Et ce passage-là nous présente la couleur de l'amour. Jonathan, il était le fils du roi Saül. Et pendant, en principe, donc, Jonathan, c'est lui qui devait remplacer, ou bien qui devait succéder à qui? À Saül. Parce que c'est lui le fils, l'héritier du trône. Mais c'est Dieu qui avait à juger ça autrement. Mais à vue humaine, c'est d'abord ça. Mais alors, entre Jonathan et David, il s'est tissé une affection, une vie d'amour incomparable. Au nom de l'amour, Jonathan va préserver la vie de David. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, il allait prendre les côtés de son père. Et la Bible nous dit que Jonathan était le fils aimé de Saül. Parce que Saül voulait que ce soit lui qui lui succède à son trône. Mais non, mais Jonathan a réagi autrement. Au verset 17, il a préservé la vie de David. Alors que Saül devait organiser une fête, et à laquelle il avait convié à David. Et il avait déjà tout préparé, même les sièges sur lesquels va se mettre David. Mais dans son cœur, dans sa pensée, il y avait autre chose. Il voulait achever ce jour-là, David. Mais Jonathan va aller dire à David, écoute mon pote, tu ne viens pas chez moi à la maison. Parce que mon père a déjà prêté tout pour t'achever et t'ôter la vie. Et alors, quand vous continuez avec la lecture, vous allez voir que Jonathan a accepté d'être moqué par son père. Et son père qui l'a jugé, il dit, fils pervers, ce que nous avons dit, on a dit, Jonathan a accepté d'être moqué par son père. Parce que Jonathan a accepté la trahison devant son père, devant sa mère, juste pour sauver la vie à David. Et si vous continuez la lecture de ce passage, vous trouverez que Jonathan, dans son humilité, il a dit seulement à David, ne m'oublie pas. C'est que le vrai amour se manifeste, ou bien la couleur du vrai amour, c'est que vous pouvez être moqué, vous pouvez être réduit au ridicule au nom de l'amour. Et c'est ça, c'est que notre Dieu, Jésus-Christ, a accepté. Il a été réduit. Il a été... Il a accepté d'être moqué au nom de l'amour. Et c'est ça la relation, et ou bien c'est ça la qualité de la relation que nous devons avoir les uns envers les autres. Que vous soyez en mesure de protéger l'autre. Que vous soyez en mesure aussi d'accepter que vous soyez moqué et pourvu que l'autre puisse être élevé. Et ça, ça peut ne pas être donné à nous tous. Mais nous devons faire cette expérience-là. Et cet amour ne peut puiser sa force qu'en Dieu lui-même, parce que Dieu, l'amour, est en lui, et lui-même s'est dit qu'il est amour. Dieu n'a ni besoin de croire, ni besoin d'espérer, mais il aime. Et voilà la raison pour laquelle il est écrit dans la parole de Dieu que la foi et l'espérance pourront disparaître, mais c'est l'amour qui va rester à jamais. Nous n'aurons plus besoin de la foi. Oui, ce qui nous attend dans le ciel, parce qu'il faudrait que nous puissions aussi en parler. Oui, nous n'aurons plus besoin de la foi ni de l'espérance au ciel. Parce que même la Bible, à 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, pour le moment, nous marchons par la foi, non par la vue. Mais au ciel, nous allons voir Jésus. Jésus qui est l'objet et le sujet de notre foi. Quel jour glorieux d'être en face de celui qui est l'objet de ta foi. Le sujet de ta foi. Au ciel, oui, nous n'aurons plus besoin de l'espérance. Parce qu'on espère à quelque chose. Fille et comme garçon, nous espérons à un mariage. Mais une fois qu'on est dans le mariage, est-ce qu'on doit continuer à espérer? Pas du tout, parce qu'on est déjà dedans. Et c'est comme ça. Et devant, quand nous serons dans ce face à face avec le Seigneur, nous n'aurons plus besoin de l'espérance. Parce que ce que nous espérons avoir, la vie éternelle, vivre dans la présence de Dieu, mais ça nous sera déjà accordé. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, chacun pour sa part, faire tout pour ne pas louper ces grands jours. Ces jours glorieux de voir Jésus qui a porté tes péchés, qui a porté tes peines, qui a porté toute ta condition de le voir face à face. Apprendre à s'aimer les uns les autres, ça doit être enraciné dans le caractère de Dieu. L'Église, ici, a besoin aussi des prophètes. Parce que Paul, en nous le disant, il n'a pas évacué par le remède de la main les dons de prophétie, les dons de parler en langue, les dons de faire la théologie, pas du tout. Mais il a compris que ça aussi, c'est très important dans l'Église pour que l'Église puisse croître. Mais au-delà de tout, cela, c'est l'amour qui va demeurer éternellement. Et ce qui nous est demandé de vivre, c'est de s'aimer les uns et les autres. Et voilà ce qui va constituer la force de l'Église, parce que c'est l'amour qui va nous accompagner jusque dans l'éternité. Et si cet amour que nous vivons à Goma Ouest est inspiré de l'amour de Dieu, nous aurons à édifier les autres par notre manière d'être, nous aurons aussi à être au service des uns et des autres, et nous aurons aussi à édifier l'Église par cette manière de vivre cette joie d'appartenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous aimer pour que, par cet amour, l'Église de Jésus-Christ rayonne. Prions le Seigneur.